102.3
RLP
Bazar.
Et vous,
Bazar. Et vous,
expert en rien, on s'intéresse à tout. Et vous,
bienvenue à tous dans ce troisième voyage. Un voyage que vous allez vous offrir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous autorisez à prendre soin de vous. Ça, c'est bien. Assurez-vous d'être confortablement installé sur ce siège moelleux, comme la brioche que nous faisait mamie au goûter, ou sur les genoux de votre partenaire. Qu'il est doux, ce genou. Avant de commencer, nous allons prendre quelques instants pour respirer. Inspire, expire. Vous n'avez rien à faire, juste suivre le son de ma voix. Ici, là, au loin, là-bas. Vous êtes prêts? On y va. Je vais vous demander de visualiser une rue. Rendez-la la plus réaliste possible, en y mettant tous les détails qui vous passent par la tête. Des poubelles, l'urine des trottoirs, l'odeur des pots d'échappement. Respirez. Sentez comme vous vous sentez bien, en sécurité, apaisé. Ressentez cette paix intérieure. Un paix vous monte, ne luttez pas. Laissez-le s'échapper. Personne ne le sentira car tout ceci se passe dans votre tête. Rien de ceci n'est réel. Au loin, vous apercevez un homme. Vous l'interpellez. Mince, ce n'est pas la bonne personne. Vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Souriez et continuez votre chemin, heureux. Vous distinguez la silhouette d'une autre personne, avec un mouton en laisse. Interloqué, curieux, vous vous approchez. C'est tout vous, ça. Vous êtes maintenant à quelques mètres de la personne, avec son mouton qui vous regarde.
Bah !
Saluez votre nouvel ami.
Bah !
Rempli de cette rencontre, vous continuez votre chemin. Vous avez beaucoup marché, vos pieds sont douloureux, ce n'est pas grave. Enlevez vos chaussures et continuez pieds nus. Le soleil brille, vous brûle la peau. Vous revenez à vous et vous vous réveillez. Et oui, tout ceci n'était qu'illusion. Vous souriez, content d'avoir passé un bon moment. Et rigoler.
Bonjour mes petites marmottes qui viennent de se réveiller de cette petite parenthèse. Ce petit voyage d'invention inventée, bienvenue. Bonjour à mes petits coquinous aussi. Alors aujourd'hui on est en forme, hein, requinqué, plein d'énergie et motivé, hein les gars.
Bah
Comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien.
Ça vous a fait du bien?
Oh voilà. Ah, je suis détendu là.
Dans cette troisième émission, émission sur le thème de la tromperie, l'illusion, du faux, nous allons aborder le sujet de la langue de bois. C'est notre cher tendre sauvage et espiègle Thomas qui s'en chargera pour ensuite aller parler cinéma et effets spéciaux avec le Benji de tous les Benji, le Benji coquin. Benjamin.
Lui-même.
Benjamin coquin. En fait, je voulais faire une rime, mais je l'ai loupé. Pas grave. Et cette émission se terminera par le micro-trottoir abordant les thèmes. Je vous laisse deviner à la fin, je vous laisse découvrir ça au fil de la chronique. Évidemment, comme à chaque fois, des petites surprises vous attendent au programme, alors montez le son les amis et kiffez avec nous. On commence de suite avec la chronique sur le langage animée par Thomas. Je te laisse la parole tout de suite après le jingle.
Merci.
Dire l'essentiel.
Cette mutation administrative.
Oui, nous sommes
pour retrouver, oui, l'essentiel.
Citoyen.
Ta gueule.
T'as une langue qui n'est pas ordinaire. T'as qu'à fermer ta gueule.
Ouf, une pastille contre les mots. Langage, rhétorique, langue de bois, tout ça, on va le voir ensemble.
Et quand on se met tous ensemble.
Alors on va continuer notre petite série sur le langage. Et on va passer à l'étape du dessus. Pour les auditeurs assidus, ils se souviendront de la précédente chronique. On a parlé de langue de Blois. Pour rappel, on a parlé de
la langue de Blois. Ah ben, vous n'êtes pas les bienvenus, sans CPR.
Pour rappel, on a parlé de langue de bois, semblable au langage que l'on entend de la bouche des professionnels de la politique ou de la communication en général. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il existe plusieurs types de langue de bois. On peut les voir comme des formes de rhétorique, c'est-à-dire l'art d'habiller ces phrases pour les rendre plus percutantes. Ça t'amuse ce que je raconte? Pour les rendre plus percutantes pour l'auditeur et parfois au détriment du fond. Tu sais, la rhétorique, ça peut être par exemple dans une conversation, tu vas venir dire que tu sais de quoi tu parles parce que ton oncle est garagiste. Donc les voitures, c'est un peu ton dada. Bon bah là, tu viens de faire un argument d'autorité. C'est-à-dire te cacher derrière un expert dans un domaine, là ton tonton, pour légitimer tes propos. Bah là, toi-même. Du coup, c'est percutant pour la personne qui t'écoute. Elle va se dire, sans trop réfléchir, « Ah non, mais elle sait trop de quoi elle parle, quoi. Son oncle, c'est trop un professionnel. » Mais si tu prends un peu de recul sur la forme, la rhétorique, l'habillage, rien n'indique que tu sois un expert en voiture juste parce que ton oncle s'y connaît. Ton oncle, c'est pas toi. Là, on parle de voiture, mais ça marche avec tous les domaines. Bref, je vous disais donc que la langue de bois est une famille de la rhétorique et que l'on va employer un certain type de langue de bois en fonction du contexte des gens qui nous écoutent, du public à atteindre. On peut distinguer trois grandes catégories dans la langue de bois. Alors la première catégorie, c'est le jargon. Tout le monde l'emploie de près ou de loin en fonction de sa spécialité, de son métier. Tu peux avoir deux usages en gros du jargon. Le premier, le plus légitime, c'est gagner du temps entre professionnels d'un même métier. Et le deuxième usage du jargon, tu vas utiliser du coup cette connaissance, ce langage technique pour perdre consciemment ton interlocuteur. Tu vois ? Donc ça peut rappeler pour les plus jeunes d'entre nous des années 80, on se souviendra du sketch des Inconnus sur les langages hermétiques. Sinon, c'est cet informaticien qui vous dira que l'ordinateur ne marche pas parce que le BIOS est setup en HDD boot only et qu'il faut upgrade l'UEFI en version post-alpha pour activer la feature optionnelle, quoi. Donc, tout ça, ça va être le jargon. Deuxième catégorie, la langue de coton. Oh, c'est le type de langue de bois. Putain, c'est de bois.
Blois un coup.
C'est le type de langue de bois le plus connu, celui qu'on a tous en tête quand on entend le terme « langue de bois ». Tout comme dans l'exercice des jeux de cartes de Mobidon de la précédente chronique, celle sur Franck Lepage, etc., c'est l'art de faire des phrases creuses et vides de sens. On utilise généralement ce type de langue de bois pour ne pas répondre à une question ou gagner du temps. On tourne autour du pot. « Bonjour, monsieur le directeur. Avez-vous pris une décision quant à l'augmentation de nos salaires ?»« Vous le savez, ma chère Cunégonde, l'économie est un océan plein de remous. » Et même avec un phare qui nous guide, la brume peut parfois masquer la lumière. Passez une bonne journée. Et troisième catégorie, dernière catégorie, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, la langue de pouvoir. La plus dangereuse, la plus pernicieuse. Ce sont des mots choisis minutieusement par des professionnels du langage pour venir effacer d'autres mots. Et par conséquent, venir effacer des pensées, des idées. Une véritable guerre des mots. Cette langue de pouvoir, tu vas la retrouver dans toute l'administration, du moins dans sa partie officielle. Les documents, les courriers, les notes d'intention, le nom des postes, etc. Qu'on se comprenne bien. Je ne vous parle pas là d'une théorie complotiste fumeuse des 5 grands reptiliens de la planète Nawak qui prennent toutes les décisions dans l'ombre via le conseil galactique du 3e œil de mes fesses sur la commode, mais plutôt d'une idéologie générale en place, ancrée, d'un système bien huilé qui s'auto-alimente via les dizaines de milliers de gens qui le composent. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nous, ça peut être vous. La langue de pouvoir, tu la retrouves dans la publicité, dans les programmes politiques, dans les entreprises, partout où tu retrouves des enjeux de pouvoir. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Je vais vous donner une petite liste de termes que vous connaissez tous de près ou de loin, des termes actuels, mais qui n'ont pas toujours été formulés de la manière dont on les formule aujourd'hui. Je vous donne le terme d'avant, et je vous donne la version d'aujourd'hui. Avant, on disait fermier paysan, maintenant on dit exploitant agricole. Capitalisme, développement durable. Stockage de l'uranium, traitement de l'uranium. Ministère des armées, ministère de la défense. Guerre, conflit. Licenciement, plan de sauvetage de l'emploi. Bavure, dommage collatéral. Balayeur, technicien de surface. Secrétaire, assistante de direction. Donc voilà, quand on entend ces mots, la version d'avant, après, dans notre cerveau, c'est la même idée, la même symbolique. Mais tu vois bien qu'on vient diluer un petit peu la chose, on vient la mettre un peu à notre sauce, tu vois. On vient essayer de valoriser des choses qui n'ont pas à être valorisées. Comment dire, quand t'es dans un travail précaire, il faut que ce soit reconnu tel quel. On vient juste, par le langage, te faire croire que ce sont des métiers nobles, beaux. Tu vois ? Alors que non. Donc là, on va faire le même exercice, mais avec des formulations plus complexes, avec plus de mots. Lisa, de sa voix entraînante, va nous donner la version officielle, et ensuite, moi, une traduction de la réalité qui se cache derrière cette formulation.
Projet de réhabilitation des quartiers populaires.
Se débarrasser des quartiers pauvres.
Modernisation des bâtiments.
Augmenter les loyers.
Aménager l'offre de services.
installer une grande surface qui centralise tous les services au détriment des commerçants indépendants.
Développement des espaces sécurisés.
Installer des grilles avec des picots et des caméras.
Lutter contre les nuisances sonores.
Fermer les bars et les lieux de vie à partir de 22h.
Développer le réseau associatif.
Subventionner les assos qui sont d'accord avec l'État pour qu'elles fassent le travail à sa place. Bon, je m'arrête là. Je pense que vous avez compris l'idée. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent aux sources, je ne parle pas des sourciers. Alors je disais, pour ceux qui s'intéressent aux sources, je me suis beaucoup inspiré de l'émission sur les docs que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant « Se désintoxiquer de la langue de bois ». Donc c'est une petite heure de ta vie que tu ne verras pas passer. Pour faire un petit résumé, quand on parle de langue de bois, on ne parlera pas toujours de la langue de coton, la plus commune, qui s'apparente plus à une sorte de politesse cynique, voire carrément d'un foutage de gueule édulcoré, quoi. Les ambitions derrière la langue de pouvoir sont tout autres. Là, on rigole plus, on manipule. L'opinion, la pensée, les symboles, et plus globalement notre vision du monde extérieur, au-delà de notre petite bulle personnelle. Quand Vladimir Poutine parle de sécurisation des zones de conflit en Ukraine, le terme « guerre » disparaît. Quand un polémiste vous parle de réguler le flux migratoire, le terme de « réfugié économique » disparaît. Quand un PDG vous parle d'augmenter le potentiel concurrentiel de l'entreprise, le terme « licenciement » disparaît. Voilà. Maintenant, pleurons ensemble.
Merci à vous, merci, merci.
Oui, construisons le futur.
Futur.
Merci en tout cas pour ces...
Merci Thomas.
Cette petite chronique informative qui nous informe et qui nous pousse à nous informer et à comprendre comment ne pas se faire duper.
Oui.
Ne serait-il pas le moment de faire une petite pause? Une petite pause.
Oh.
Publicité.
Ouh. Bazar!
Et vous?
Ça va Mathilde? Qu'est-ce que t'as à tortiller comme ça? On dirait que quelque chose te gêne.
Ah, faut que je fasse une pause.
Quoi? Déjà?
Bah, tu sais, problème de fille, je crois qu'il faut que je vide ma cup.
Non, tu l'as vidé juste avant qu'on parte! Et là, on est à deux doigts de faire notre meilleur temps.
Oui, mais avec mon flux abondant, plus, je ne peux pas être tranquille plus de 10 minutes.
Toi, tu connais pas la Moon Bowl?
La Moon Bowl?
Moon Bowl, c'est la tranquillité au quotidien. Avec sa capacité de rétention de plus de 3 litres. Ça fait maintenant 6 mois que je n'y pense plus.
Ça me paraît impossible.
Et pourtant si, Mathilde. Regarde.
Waouh! Mais quelle capacité de rétention de flux! Moon Bowl, c'est s'offrir le droit de vivre au-delà des règles de mère nature.
Attention, Moon Bowl est un produit d'hygiène intime conçu exclusivement pour les femmes à ne pas confondre avec un ustensile de cuisine, un saladier, une voiture ou une assurance tout risque. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
On enchaîne avec la chronique de Benjamin sur les effets spéciaux au cinéma. Attention, il va nous bluffer. Jingle.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage.
Cinéma.
Mash-up de la bouillie de cinéma.
Je trouve ça tout à fait bouleversifiant.
Tâchez au dos.
Haha. Bonjour. Je sais toujours pas comment commencer une chronique, ouais. Donc voilà, ça va être comme ça à chaque fois.
Ouais. Ok.
La dernière fois, je vous évoquais un peu mon adolescence, les films de drogue, tout ça.
Ouais.
Et bah écoute, je vais faire un peu pareil, sauf que là, je vais vous parler de mon enfance.
Oh,
quand j'étais un bambin. Insouciant. Quand j'avais cet âge-là, j'étais particulièrement fan de films fantastiques, de films de fantasy, de science-fiction, là où il y a des monstres et des créatures merveilleuses. Bref, tous ces univers qui étaient loin de notre réalité et où tout paraissait possible. Mais une fois l'émerveillement passé, je me demandais un peu comment ces visions oniriques prenaient vie. Un peu comme lorsqu'on essaye de comprendre un tour de cartes, ou comment cette pièce est arrivée derrière mon oreille. Ou comment des cloches volantes associées à des lapins pouvaient laisser des chocolats dans mon jardin. Et c'est alors que j'ai découvert le monde des trucages, des effets spéciaux et de leurs créateurs. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que les effets spéciaux sont intrinsèquement liés aux origines du cinéma, ce dernier étant lui-même une illusion d'optique. Waouh, quelle révélation. Et vous allez voir, ça a du sens. Et donc c'est à la fin du 19e siècle que Georges Méliès, passionné d'illusionnisme et propriétaire d'un théâtre où se produisaient des spectacles de magie, sentit tout de suite le potentiel créatif du cinématographe apporté par les Frères Lumière, et il inventa alors tout un tas de procédés, de trucages, afin de créer des illusions pouvant rivaliser avec les meilleurs spectacles de magie. Parce que, faut que je vous le rappelle vite fait, les cinémas, à l'époque, à l'origine, ça se passait dans les foires, dans les fêtes foraines, et c'était sous des petites tentes et des petites cabanes où on allait voir des projections, voilà, un peu à la manière, bah, justement, des magiciens ou des illusionnistes qu'on allait voir dans les mêmes fêtes foraines. Moi, je trouve que c'est un truc, enfin, moi, c'est un truc, du coup, qui m'a vite passionné, ce côté making-of, un peu, ce qui se passe derrière les coulisses. Et il y a pas mal de films qui parlent de ça, et il y en a un notamment que je trouve particulièrement bien sur le sujet, qui est Le Prestige de Christopher Nolan, sorti en 2006, qui raconte l'histoire de deux illusionnistes à la fin du 19e, début 20e, quoi, qui se battent en gros, sont un peu en concurrence, en duel, pour avoir le meilleur tour de magie. Bon, voilà, je vais spoiler, je suis désolé si vous n'avez pas vu Le Prestige. On apprend qu'un de ces illusionnistes a acheté une espèce de machine créée par Edison, il me semble.
C'est pas Tesla?
Tesla, ouais. Autant pour moi. Tesla, une machine qui aurait été utilisée par Houdini, donc, pour faire ses tours. Et donc, c'est là où on voit que science, technologie et magie sont liées, en fait. La chute, c'est qu'en fait, ce n'est pas seulement un trucage. On s'aperçoit que la machine clone la personne qui se met dedans. Et donc, en fait, la personne n'a même pas à s'évader, elle se fait juste tuer à chaque fois, pendant que l'autre réapparaît de l'autre côté, quoi. Donc, c'est assez, assez chouette, je trouve, comme parti pris, comme point de vue, quoi, sur la magie. Puis ça fait écho avec le cinéma, qui est un art quand même un peu de, très lié à la technologie. Un autre film, plus ancien, qui parle un peu de ce côté coulisses du merveilleux, de la magie, c'est Le Magicien d'Oz, de Victor Fleming, sorti en 1939. Où la petite Dorothée qui vit dans le Kansas se retrouve dans un monde merveilleux, le monde d'Oz, suite à une tornade qui emporte sa maison. Et à la fin, encore un spoiler, je suis vraiment désolé, on découvre qu'en fait le magicien d'Oz, c'est juste un bonhomme qui est planqué dans une espèce de petite caisse où en fait il fait apparaître son image comme si c'était un projecteur, en gros, qui projetait son visage sur un espèce d'énorme écran de fumée, ce qui donne l'impression, enfin, ce qui fait que tout le monde l'appelle le magicien d'Oz, voilà. Alors qu'en fait, c'est juste
un hologramme, quoi. Enfin,
oui, c'est ça, quoi. Tout simplement. En fait, c'est juste un illusionniste. On voit que la frontière entre magie, illusion, technologie est assez mince, au final. Ce que je trouve marrant, voilà, c'est que... Comment exprimer ça clairement? C'est quand les films ou les effets spéciaux font partie de la diégèse du film, quoi.
Diégèse?
Oui, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'univers du film, en gros, quoi. Et donc, dans Oz, voilà, je me répète un peu, on voit donc Oz préparer tout un tas d'artifices, d'illusions, pour repousser, pour faire peur à cette sorcière, pour faire croire que lui aussi a des pouvoirs, à tromper l'ennemi, j'ai envie de dire. Et bon, voilà, je l'avais noté très vite fait, mais dans le film A Mille et Une Pattes, je sais pas si vous vous souvenez aussi, à la fin, il crée un espèce d'énorme oiseau, oui, fait à base de feuilles, de branchages et tout, pour repousser les sauterelles.
Ça, je l'ai vu, Mille et Une Pattes.
Ah bah tu vois, t'as des rêves.
Bien, Lisa. Yes.
J'ai adoré. Zed, au secours! C'est une réplique du film.
Ah, je me souviens. Moi, juste la grosse chenille qui disait « Allez-y, sautez sur mon ventre !»
Voilà. Puis à un moment, il y en a un qui dit « Ça va ?»
Et, Et puis voilà. Non, c'est pas fini. Voilà, ce que je vous disais, moi, un peu plus tôt, c'est ce que j'aime, c'est ce côté un peu making-of. C'est donc, on voit les coulisses et aussi qui sont les gens, du coup, qui fabriquent ces effets spéciaux. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a... Il y a eu un espèce nouvel âge d'or de l'effet spécial avec l'avènement des films d'horreur. Et donc, on retrouve tout un tas d'artisans, de fabricants d'effets spéciaux, maquilleurs, qui étaient à l'époque un peu des espèces de stars, quoi. Et on peut noter, par exemple, Tom Savini, qui faisait les effets spéciaux de George Romero. Donc, Tom Savini qui avait été influencé en plus par son expérience du Vietnam, donc c'était l'un des premiers à retranscrire des effets gore assez réalistes, quoi. Pendant longtemps, les effets spéciaux ont servi à alimenter, à créer des espèces d'univers merveilleux, enchanteresques, machin, pour au final, après l'émerveillement, on a un peu basculé dans l'horreur, quoi. Et on se prend des grosses giclées d'hémoglobine, des monstres qui arrachent des bras, et je trouvais ça assez rigolo. Et donc voilà, tous ces artisans des effets spéciaux, Tom Savini, Rick Baker, Robotin, tout ça se sont fait peu à peu éclipser par l'avènement des images de synthèse, des effets spéciaux numériques.
Bouh, la technologie, bouh, le retour à la Terre,
Exactement. Et bien sûr, avec le film Jurassic Park de Spielberg qui a...
Je connais pas.
Et le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Non, pardon. La lampe, éteins la lampe.
C'est une sorte de grosse dinde.
Et donc voilà, là on vit une ère où c'est l'avènement des images de synthèse, des effets numériques, et pendant longtemps, il faut avouer que ça a vraiment bien fait le taf, et ça a permis de révolutionner le cinéma quand même. Après il y a eu des Titanic, enfin des choses qui auraient été impossibles à faire avec seulement des maquettes et des petites marionnettes, quoi. Mais il faut avouer qu'avec le temps, on voit de plus en plus les ficelles, quoi. On est peut-être un petit peu moins émerveillé, enthousiaste, quand on voit des créatures en 3D un peu dégueulasses souvent. Pour ma part, je trouve que c'est peut-être parce que je deviens vieux et peut-être parce que je fais de la dépression chronique, mais la magie, la magie a tendance un peu à disparaître. Les effets spéciaux, je trouve, perdent un tout petit peu de leur charme avec le temps. Peut-être dépasser le côté illusion, on essaie justement de tromper le spectateur, mais au contraire, on essaie un peu plus de l'enchanter,
de voyager.
D'assumer à fond, voilà, ce côté artisanal, que le cinéma est bel et bien, de toute façon, un spectacle, voilà, d'illusion, et qu'il faut l'aimer pour ce que c'est.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et donc, voilà, je vais m'arrêter là.
Eh bien, super. Et ben, un voyage agréable.
Un peu fouillis, j'avoue. Mais non.
Oh. La magie.
L'illusion de l'écriture de la chronique aussi.
C'est ça, Cléo. Abracadabra.
Abracadabra.
Mais en tout cas, merci.
Eh bien, de rien, ce fut un plaisir.
De ton application.
Maintenant, je vais partir.
Non, reste.
Hein non, après.
C'est le moment du micro. Trottoir. Wow.
Micro. Trottoir. De Lily. Vous posez la question, répondez.
Ah, mais juste pour savoir, c'est quel sujet.
La paix qu'il nous faudrait.
Jeudi soir et samedi soir.
Alors, je lève la rime.
Et je sens que vous vous posez la question de savoir quelle est la question du micro-trottoir aujourd'hui.
Quelle est la question du micro-trottoir
aujourd'hui? Oui, mais on s'en pose tous des questions. Tiens, moi, par exemple, je me demande pourquoi, quand je marche dans la rue, personne ne me tient la main. Pourquoi, quand je me couche tous les soirs, n'y a-t-il pas le corps d'un bel ou d'une belle inconnue à caresser avec des muscles, tu vois, et qui sent bon la noix de coco? Parce que moi j'adore ça, la noix de coco, hein? Oui, je m'en pose des questions. Et c'est avec cette solitude que je suis partie sillonner les rues de Périgueux pour comprendre, pour enfin savoir la vraie vérité du monde réel de la séduction. Qu'est-ce que séduire, hein? Qu'est-ce que l'on trouve séduisant chez quelqu'un? Quand est-ce que l'on se trouve séduisant? J'avais besoin de comprendre. J'ai quand même fait mes petites recherches. Et Google m'a répondu sur qu'est-ce que séduire? Eh bien, c'est le fait de séduire quelqu'un, de l'attirer irrésistiblement, de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable, de l'amener à consentir à des relations sexuelles. Ah oui. C'est ça que je veux, ok?
Attends, tu peux reprendre la définition, là, comment on fait pour accéder à ça?
Séduire également.
Je vais vous expliquer, c'est ça qu'on veut, parce que c'est le printemps, la sortie de l'hiver, nous ce qu'on veut, c'est plaire, faire des choses, voilà. Mais là, se pose la question de savoir comment aborder une personne, comment draguer, par exemple, comment draguer un homme en toute subtilité. Là encore, Google m'a répondu. Il s'agit de faire comprendre à l'autre qu'on le trouve à son goût, en accrochant son regard, assortir le regard de chat d'un sourire intéressé « coucou toi », puis retourner nonchalamment à sa discussion. Alors j'ai essayé le coup du « coucou toi », et voilà ce que ça donne. Oui, ne faites pas ça. Je ne peux plus continuer à me prendre des vents, à passer pour une asperge qui essaie de se faire croquer, mais qui au lieu de ça se fait couper. Je suis une cruche, percée de plus. J'ai la peau craquelée, depuis toi desséchée. Quand vient la lune, et le vent frais.
Merde.
Par habitude,
je te cherche
sur le canapé. Oui, j'en suis rendue à faire des imitations de Vianney, et même ça, je le rate, tu vois. Alors, après avoir tout tenté, après avoir regardé le film Yves en boucle, épluché toutes les vidéos de coach en séduction sur YouTube, j'ai décidé d'aller me renseigner auprès du peuple pour comprendre ce que les gens, hommes ou femmes, trouvent séduisant chez une autre personne. Hein? Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce que vous trouvez séduisant chez une personne? Qu'est-ce qui vient vous séduire?
L'humour. Une vanne et un trait d'esprit. Voilà, une connivence, moi ça me fait fondre.
Ouais, le regard, les yeux, ça peut être charmant. Ou le corps.
Et vous?
Moi j'aime bien les chaussures. Je regarde souvent les chaussures en premier. Et si je vois une femme de face, je regarde ses yeux. Et dès qu'elle est de dos, par contre, je regarde ses fesses.
L'humour, le regard, le cul, les seins.
Mais voilà, bah, j'aime bien les seins, quoi.
Oui, c'est bon, ça je l'avais compris. Et quand on n'a rien de tout ça, qu'est-ce qui peut plaire?
Après, ça va être plus, on va dire, l'âme d'une personne, ce qu'elle dégage, plutôt son énergie,
Donc rassure-toi, si tu te sens comme une enveloppe déchirée et mal timbrée, ce n'est pas grave, tu renfermes sûrement une belle lettre d'amour, et ça c'est beau, tu vois, ça c'est séduisant. Ça c'était du côté de ces messieurs, et on constate que quand même le physique revient pas mal. Et les femmes, elles, par quoi sont-elles séduites ?
Ah, très bonne question. En général, d'abord je regarde les yeux, après c'est souvent le comportement.
La tendresse, l'humour, l'intelligence relationnelle, c'est pas mal. La métaphysique, c'est pas trop mal non plus. Un peu de philosophie et de la mécanique, parce que ça, c'est pratique.
Son savoir-faire, son savoir tout court, son humour, son sérieux, mais pas trop longtemps.
La femme est décidément plus touchée par une sensibilité que va avoir la personne, un feeling, une qualité d'écoute et de relation. Mais comme le dit Jean-Claude Van Damme, il faut s'aimer d'abord soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Je ne pouvais pas continuer cette chronique sans citer notre Van Damme national. Alors qu'est-ce que l'on aime chez nous ?
Et du coup, deuxième question, quand est-ce que vous, vous vous trouvez séduisant ?
Eh ben, pas souvent.
Nous avons un dépressif en face de nous. Mais...
non, peut-être petit manque de confiance en moi. Pas dépressif quand même, mais pas souvent. Je me trouve séduisant. Ben, en fait, ça se passe surtout dans le regard de l'autre. Quand je vois quelqu'un me trouver beau, je me trouve séduisant.
Ah, ben, je pense que c'est quand je le lis dans le regard d'une nana ou d'un homme, quand je sens que je plais. Parce que peut-être aussi quand je fais rire.
Moi, je me trouve séduisant quand je raconte une histoire à des gens et qu'ils sont captivés par mes histoires. Là, je me trouve séduisant.
Quand je me sens bien dans mes fringues, je sens une osmose et donc du coup, je me sens bien. Donc, je sais pas, par exemple, au boulot, je peux me sentir bien parce que je suis à l'aise dans ce que je fais, donc je me sens bien.
On remarque quand même que les réponses restent plus floues et plus vastes quand il s'agit de se trouver quelque chose de séduisant. Et oui, ce n'est pas évident et beaucoup repose sur la confiance en soi. Une personne vraiment confiante n'a plus besoin d'apprendre des phrases d'approche et des histoires préparées du genre « Coucou toi !» Non, elle sait que sa personnalité lui suffit pour séduire. Elle ose se dévoiler et elle rayonne par le fait qu'elle s'assume et reste soi-même. C'est ça qui plaît à l'autre. Assumons qui nous sommes et surtout ne cherchons pas à coller à une image qui ne serait pas la nôtre. Ne faisons pas semblant, hein ? On n'est pas dans un film, c'est la réalité ici.
Par contre, je regarde ses fesses.
Moi, c'est pareil. Hein.
On a trop de choses en commun.
Franchement, je crois qu'on s'est trouvés. Hein.
Ouais.
Bon, moi, je vous laisse. J'ai fait une rencontre et franchement, je crois que mon cul lui plaît. Allez, des bibis.
Ouais.
Voilà, voilà. Et vous, ça m'intéresse à savoir qu'est-ce qui vous séduit chez une personne.
Non, l'humour, ouais, c'est vrai que c'est important quand même. L'intelligence, tout ça.
T'as qu'il faut qu'une.
Et quand est-ce que tu te trouves séduisant ?
Quand je me trouve drôle et intelligent. Ce qui n'arrive pas souvent.
Et ça se voit.
Je sais.
Et toi, Thomas ?
Je sais pas.
J'ai peur.
Je sais pas.
Je réponds, elle est trop intime, cette question.
Elle est trop
quand je suis nu.
Nu comme un ver.
Tout suintant.
Suintant comme mon père. Ben je sais pas, c'est je pense que c'est une question de bagou quand t'es en forme, quand t'es un peu la patate et surtout que tu fais ça de manière désintéressée. Mais je trouve que les gars qui le font ça naturellement, juste ils font les bonnes blagues parce qu'ils ont les bonnes blagues, ils rigolent parce que c'est drôle. Et ça je pense ça fait toute la différence quoi. Et si moi je suis dans cet état-là, bah là peut-être je peux me sentir séduisant. Sinon non. Au revoir. Bisous. Salut. T'as un numéro ?
Oh, non non. J'ai peur.
J'en sais un petit peu plus maintenant sur vous. On apprend vraiment à se connaître et ça j'adore.
C'est beau,
on sent que l'équipe est en train de se souder. Quoi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est séduisant.
Ah, je séduis. Hein. Arrête.
Voilà.
Retire ta main. Oh. Retire ton doigt.
Philippe. Bon, ben voilà, l'émission touche enfin à sa fin.
Elle a dit deux fois fin.
Non.
Pardon.
Vous avez passé un bon moment ?
C'est à nous que tu parles. Ouais.
Ça va, ça va. Ça a été compliqué à sortir, cette petite chronique. mais j'espère que ça s'entendra pas trop au montage.
La langue de Blois. Retenez bien.
Blois.
La langue de Blois.
Ok.
Les Blois. Et toi, Benjamin,
moi, comme d'hab. Ah, oh, j'ai kiffé.
Ah, là. Je t'ai senti au taquet.
Ah, bah, t'as vu ça ?
Revigoré, plein d'énergie, à fond, quoi. Et moi, comme d'habitude, j'adore.
C'est vrai qu'on t'a pas demandé.
Je vibre. Mmh. Bah oui, mais je pense à moi, je me pose la question. Et toi, Lisa, comment ça va ? Et sur ces belles paroles, c'est le moment de vous dire ciao, ciao.
Ciao.
À plus, bisous.
Ciao. Au revoir.
Bisous.
Et vous.